Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le discours du président tunisien lundi soir suscite de vives réactions dans la classe politique tunisienne. Des manifestations sont prévues vendredi. Notre invité sera Fev Daoud, la présidente du Conseil national du parti Etakatol. Le président algérien entame aujourd'hui une visite d'État de 2 jours en Tunisie, l'occasion, selon la présidence tunisienne, de renforcer les liens de fraternité historiques qui unissent les deux pays. Le 42e sommet du Conseil de coopération du Golfe, hier en Arabie Saoudite, le prince héritier Mohamed Ben Salman a plaidé pour une approche efficace et sérieuse du programme nucléaire et balistique de l'Iran. Le président du Conseil français du culte musulman fait part de sa surprise après les dernières déclarations du ministre de l'Intérieur en charge des relations avec les cultes sur le CFCM. Mohamed Moussaoui souhaite être reçu par le chef de l'État, vous l'entendrez. Les demi-finales de la Coupe arabe des Nations ce mercredi à 16h, la Tunisie jouera face à l'Égypte, à 20h, l'Algérie face au Qatar. Et les quarts de finale du mondial féminin de handball, les Bleus affronteront la Suède ce soir, coup d'envoi à 20h30. Le discours du président tunisien lundi soir suscite de vives réactions dans la classe politique tunisienne. Le Parlement restera suspendu jusqu'à de nouvelles élections législatives organisées à la fin de l'année prochaine. Des amendements constitutionnels seront soumis à référendum le 25 juillet. Entretien avec Afef Daoud, la présidente du Conseil national du parti Etakatol.
On s'attendait, et on l'a déjà dit avant, que le président allait changer la constitution, qu'il allait confirmer sa volonté de gouverner tout seul, de détruire les institutions et de continuer sur un chemin qu'il a commencé depuis le 25 juillet. Donc finalement, le discours sur la forme et sur le fond était attendu. Sur la forme, c'est un discours qui est violent dans un moment où la Tunisie a besoin d'union pour construire, surtout dans cette crise qu'on vit économique et sociale. Sur le fond, en fait, il s'arroge le droit de changer la constitution. Il annonce un référendum, mais en disant que les délais de finir les travaux, même pas 25 jours avant ce fameux référendum, et surtout en n'ayant aucune visibilité sur qui va travailler sur ces sujets, sur quoi le référendum va avoir lieu, qui va travailler avec lui. Donc, littéralement, on est dans l'ère de la pensée unique, de la décision unique et de l'homme seul au pouvoir qui parle à lui-même et qui s'arroge la parole du peuple.
Et le fait que les Tunisiens soient consultés sur la future constitution, est-ce un élément que vous saluez ?
Absolument pas, parce que vous savez, lors de la dictature, il y a eu des nombreuses soi-disant consultations. Comment peut-on consulter sur une constitution ? La constitution est un contrat social grand qui a plusieurs volets, et des volets techniques et des volets sociaux, etc. La constitution tunisienne en soi, ce qui le dérange probablement, c'est le système présidentiel ou parlementaire, en sachant qu'il n'est même pas dans une vision d'un système présidentiel, mais d'un système de vote, parce que le système présidentiel, c'est un système où le Parlement est fort. Donc, principalement, comment aller, après 7 ans, retravailler sur une constitution qui a pris 2 ans d'écriture ou qui a eu l'accord de la majorité du Parlement? Donc, consulter les Tunisiens, c'est vraiment ceci de la poudre aux yeux. Deuxièmement, une consultation électronique dans un pays où il y a une grande partie qui n'ont pas accès à ce type de moyens et où une consultation qui est très technique, il va demander aux gens de donner leur avis sur la technicité des droits et des lois. Et ceci est clairement, probablement, un message qui est plus orienté à l'étranger que pour les Tunisiens, réellement. Voilà la belle poudre aux yeux, vous avez une date et vous avez une consultation générale sur la Constitution. Rappelez-vous, en fait, les référendums qui ont eu en Europe, le référendum doit être clair, la question doit être claire, pas sur une totalité de Constitution. Et puis, on doit avoir le temps pour avoir le pour et le contre et ceux qui défendent les différentes thèses, mais il faut tout d'abord savoir quelles sont les thèses qu'on défend.
La Tunisie était dans l'incertitude jusqu'à ce lundi soir et le discours du président tunisien. Aujourd'hui, estimez-vous que les éléments sont clarifiés ?
Annoncer une date d'élection, je vais prendre cet exemple-là, de l'élection législative, sans annoncer des élections présidentielles, tout en disant qu'il change la constitution, sachant qu'il a été élu sur la base de cette constitution. Donc en fait, dans le droit, il doit lui-même aussi aller aux élections présidentielles. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, en fait, les élections sont faites, on ne sait pas qui va diriger ces élections, qui va veiller à ce que les élections soient des élections honnêtes, transparentes, etc. Sachant qu'il ne croit pas aux institutions de contrôle, il l'a dit avant. Donc est-ce que c'est lui, est-ce que c'est son gouvernement qui l'a nommé sans prérogatif, est-ce que c'est le ministère des Affaires intérieures qui va contrôler ces élections, ceci n'est pas clair. Donc c'est absolument pas rassurant. C'est pour ça qu'on dit que c'est un message qui a été lancé plus à l'étranger qu'à l'intérieur, mais les forces politiques, les forces de l'opposition et les partis et aussi une grande partie de la population n'a aucune visibilité réellement sur ce qu'il va faire, comment ça va être fait, ni sur quelles règles.
Alors face à ces mesures, on l'entend que vous déplorez. Quel type d'action envisagez-vous aujourd'hui ?
Le 17, on sort dans la rue. On a fait un grand appel à la population de sortir dans la rue pour commémorer la révolution. C'est le lancement de la révolution était le 17 décembre, mais aussi pour signifier clairement notre refus à une ère de dictature qui revient clairement. Et puis, on travaillera avec les différents organismes, l'UGTT, autres, pour construire une réponse réfléchie, calme et sereine pour un avenir meilleur pour les Tunisiens.
On l'entend, vous appelez à un vaste mouvement vendredi prochain, le jour de la célébration du 11e anniversaire de la révolte contre le régime de Zine al-Abidine Ben Ali.
Tout à fait. Pour nous, la révolution a commencé le 17 et c'est une date importante et a duré jusqu'au 14. Et ça aussi, je vous donne un peu l'image du président qui est en train de changer la date de la révolution à son début, alors que en fait, les révolutions, quand on gagne et on a bien en fait, l'ancien président a quitté le pays le 14 février. Donc oui, on appelle tout le monde à être dans la rue le 17 décembre.
Afef Daoud, présidente du Conseil national du parti État Catholique, les États-Unis ont salué hier l'annonce du président tunisien d'un nouveau scrutin législatif pour décembre 2022. Nous espérons un processus de réforme qui sera transparent et inclusif de la diversité des voix politiques et de la société civile. Voilà ce qu'indique le porte-parole du département d'État. Les ambassadeurs des pays membres du G7 et de l'Union européenne en Tunisie avaient appelé vendredi à un retour rapide aux institutions démocratiques. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune effectue une visite d'État en Tunisie aujourd'hui et demain. La présidence tunisienne affirme que cette visite constituera une opportunité pour consolider les relations de coopération et de partenariat établies entre les deux pays. En 2 ans d'exercice, il s'agit de la deuxième visite d'État d'Abdelmadjid Tebboune à l'étranger. Le président algérien s'est rendu le 20 janvier 2020 en Allemagne où il a participé à la conférence de Berlin sur la Libye. Puis il a effectué une visite d'État en Arabie Saoudite un mois plus tard. Le 42e sommet du Conseil de coopération du Golfe, hier, dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, le prince héritier Mohamed Ben Salman a plaidé pour une approche efficace et sérieuse du programme nucléaire et balistique de l'Iran. Les négociations indirectes entre Américains et Iraniens ont repris fin novembre, après plusieurs mois de suspension. Objectif, relancer l'accord international de 2015, censé empêcher Téhéran d'accéder à la bombe atomique. Dans un communiqué final, les pays du Conseil de coopération du Golfe ont convenu de l'importance de se coordonner pour parvenir à une politique étrangère unifiée et efficace qui protège les intérêts des peuples du Golfe. Le président du Conseil français du culte musulman demande au micro de Radio Orient à être reçu par le chef de l'État français. Mohamed Moussaoui fait part de sa surprise après les dernières déclarations du ministre de l'Intérieur en charge des relations avec les cultes. Gérald Darmanin a annoncé la mort du Conseil français du culte musulman qu'il qualifie de représentation de l'islam consulaire, déplore Mohamed Moussaoui, le président du CFCM.
Monsieur le ministre a été interrogé sur l'assimilation du culte musulman en lien avec les propos d'Éric Zemmour. Et en se lançant donc dans sa réponse, il a annoncé quelque chose de très surprenant. Il parle ni plus ni moins de la mort du Conseil français du culte musulman, qui qualifie d'ailleurs de représentation de l'islam consulaire. Bien sûr, cette déclaration, elle n'est pas acceptable ni sur le fond ni sur la forme. Il faut rappeler que le Conseil français du culte musulman a été créé par la volonté des musulmans de France et des pouvoirs publics comme instance représentative du culte musulman qui ferait l'interface entre les gestionnaires de culte et les pouvoirs publics. L'État laïque dialogue avec les cultes. À ce titre, le Conseil français du culte musulman a été mis en place pour pouvoir dialoguer avec les pouvoirs publics dans le respect du principe de la laïcité. L'annonce faite donc par le ministre de l'Intérieur a une annonce pratiquement unilatérale dans la mesure où le CEPS n'a pas été informé, en disant clairement que les pouvoirs publics, en tout cas Beauvau, a interrompu tout contact avec le Conseil français du culte musulman. Et au passage, en parlant donc de la signature de la charte pour les principes de l'islam de France, en tout cas dans son expression, laissait entendre que le président du CFSM que je suis n'a pas signé la charte, alors que c'est moi-même qui a été coordinateur de la rédaction et le premier signataire de cette charte.
Vous entendez rester un interlocuteur des pouvoirs publics sur les questions cultuelles?
Tout à fait. Je pense que le président de la République, lors de son discours du 2 octobre, avait chargé le Conseil français du culte musulman de mettre en place un conseil national pour les imams. Nous y avons travaillé pendant une année. Des choses ont été faites, dont notamment la charte pour l'islam de France, mais aussi tous les documents fondateurs de Conseil national des imams. Et nous continuons effectivement à jouer ce rôle, puisque les accords cadres qui régissent les rapports entre l'État, entre les pouvoirs publics et le culte musulman, qui datent de 2000, janvier 2000, restent en vigueur jusqu'à une rupture officielle par l'État. On est dans une république, il y a des us et coutumes, des traditions, des règles de fonctionnement. On ne peut pas annoncer la rupture d'un dialogue avec l'instance représentative du culte musulman au détour d'une réponse à un journaliste sur une radio.
Ce Conseil national des imams que vous allez mettre en place, ce sera à quel moment?
Le 9 janvier, le Conseil national des imams de France verra le jour, avec la participation de l'ensemble des imams de France invités à participer à ce moment important. Ce moment d'ailleurs sera le départ d'une nouvelle vision sur l'organisation du culte musulman. Nous souhaitons que le Conseil national des imams soit l'émanation des imams et des responsables du terrain, et non plus l'émanation de fédérations basées sur des origines réelles ou supposées des acteurs. Je pense que c'est vraiment une idée que nous avons défendue depuis longtemps, et en tout cas personnellement que j'ai défendue depuis longtemps avec beaucoup, l'immense majorité des musulmans de France. Ils ne souhaitent plus que les instances représentatives du culte musulman soient sous la tutelle de quelques fédérations ou qu'elles soient basées sur des cloisonnements liés à des origines ou des pays d'origine ou des filiations à telle ou telle fédération. Ils veulent que les imams se présentent en tant qu'imams, les gestionnaires de mosquées se présentent en tant que gestionnaires de mosquées, et peu importe les fédérations auxquelles ils appartiennent ou l'origine dont ils viennent.
Demandez-vous aujourd'hui une audience au ministre de l'Intérieur en charge des relations avec les cultes pour faire le point avec lui et notamment sur la situation du Conseil français du culte musulman et la manière dont il est perçu par l'État?
Oui, nous demandons évidemment cette audience. En tout cas, je pense que le moment est grave et il faudrait effectivement que nous puissions on parlait, mais je demande également audience au président de la République, puisque c'est le président de la République qui a dit faire confiance au Conseil français du culte musulman pour la création du Conseil national des imams et pour une refondation de l'organisation du culte musulman. Cette confiance qu'a fait le président de la République au Conseil français du culte musulman, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas été encore retiré.
Vous avez réagi suite aux dégradations au cimetière de Mulhouse. Comment souhaitez-vous exprimer cette condamnation, justement?
Nous avons condamné fermement cet acte abject et insupportable. Nous avons vécu, malheureusement, dans le passé, de nombreuses profanations de cimetières. Celles-ci étaient d'une ampleur importante, considérable, dans la mesure où la totalité du carré musulman de cimetière de Mulhouse a été saccagé. Je pense que les familles ont été bouleversées par ce qu'ils ont vu. Cet acte dirigé contre des sépultures dénote d'une déchéance de l'esprit et une haine inqualifiable. Nous souhaitons évidemment que les auteurs de cet acte abject soient arrêtés, retrouvés arrêtés et punis à la hauteur de l'acte qu'ils ont commis. Je pense que les pouvoirs publics, il faut le dire et le reconnaître, essayent de mettre en place des moyens de protéger les lieux de culte et les lieux sépultures, mais malheureusement, nous assistons à une recrudescence de ces actes qui touche le culte musulman, mais pas uniquement, qui touche également les tombes juives et tombes chrétiennes également. Et nous ne pouvons que déplorer et condamner fermement ces actes qui menacent notre cohésion et qui dénotent d'un esprit de haine et de vengeance qui n'a pas lieu d'être dans notre société.
Vous évoquez les différents cultes touchés. Vous pensez notamment aux catholiques qui ont été victimes d'agressions verbales lors d'une procession le 8 décembre dernier à Nanterre ?
Tout à fait. Et effectivement, je pense que toutes les attaques que subissent les cultes, à quelque titre que ce soit, sont inacceptables dans un pays où la liberté religieuse est une liberté fondamentale. Elle l'est, elle doit le rester, et je pense que tout doit être mis en œuvre pour préserver cette liberté, liberté de croire ou de ne pas croire et de pratiquer le culte de son choix.
Le président du Conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui. Les demi-finales de la Coupe arabe des nations. Aujourd'hui, à 16h, la Tunisie jouera face à l'Égypte. À 20h, l'Algérie face au Qatar. Les vainqueurs de ces deux matchs se retrouveront en finale samedi prochain à 16h. Les quarts de finale du mondial féminin de handball. Les Bleus affronteront la Suède ce soir à 20h30. Les deux équipes se sont rencontrées deux fois lors des Jeux olympiques de Tokyo en phase de poule. Elle s'était quittée sur un nul, 28-28, et la France s'était imposée 29-27 en demi-finale. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient, à 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Joséphine Delpera, déléguée générale de Génération, cofondatrice de l'Observatoire national de l'extrême droite, membre du collectif Nous Toutes, une émission préparée, présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, bientôt midi 17.